Tute, chacun. En ce qui est temps, en ce samedi, de commencer votre bouquet, le bouquet des merci pour ce que l'Esprit de Dieu vous a inspiré, vous a accompagné durant cette semaine et a récolté quelques fleurs de telle parole de Dieu reçue, telle inspiration personnelle, telle joie, telle lumière. De même que nous avions, au début de la retraite, entendu le Seigneur nous demander: que veux-tu que je fasse pour toi? Il est temps de commencer à rassembler ce que chacune vous pouvez retenir comme venant de lui dans ce parcours, ces méditations, ces temps de prière de cette semaine, pour lui rendre grâce, pour faire remonter demain vers lui, pour que les choses ne passent pas comme sans imprimer, sans nous pénétrer, sans glisser sur nous, mais que nous les goûtions, que nous les retenions, que nous en nourrissions, que nous nous réjouissions. Voilà, commençons, commencez et commençons notre bouquet de merci pour le Seigneur. Ce matin, je vais vous inviter à méditer une parabole encore, chapitre 13e de Matthieu, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ces paraboles au chapitre 13e de Matthieu qui nous parlent, qui sont rassemblées, qui nous parlent du royaume de Dieu. Chacune d'entre elles commence par le royaume des cieux est comparable. Le royaume des cieux est comparable. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde, à du levain, est comparable au semeur. C'est celui-là qu'on connaît le mieux. Le semeur qui sortit et qui répandit sa semence. Le royaume de Dieu est comparable à. Et le royaume de Dieu est comparable. Un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Et il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé. Et il s'en est allé. À vrai dire, pour tout vous dire, dans les années 16-19, 2016-2019, où je faisais mon second mandat de président, sortaient toutes ces affaires qui nous ont marqués, et chacune d'entre elles venait ajouter son trouble dans mon cœur, et je me disais: mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi? Pourquoi tout ça? Et dans ma prière, dis au Seigneur: donne-moi une page d'évangile qui m'éclairerait, qui m'aiderait. Et m'est venue cette parabole du bon grain et de l'ivraie, sur laquelle je ne m'étais jamais longuement arrêté, mais qui m'a aidé à traverser ce temps en essayant de ne pas se durcir et en essayant d'en accueillir les leçons, les lumières qu'elle pouvait nous donner. Et je me suis rendu compte, après tout, que cette parabole de l'ivraie du bon grain était comme une lumière qui peut nous servir à nous tous tout au long de notre vie. Et c'est le temps de ce temps de la création, ce temps de l'histoire humaine, ce temps qui ne s'achèvera qu'à la fin des temps. Oui, le maître de maison a semé. Notre Dieu a créé. Il a donné la vie. Et pendant qu'on s'assoupissait, pendant qu'on s'endormait, le malin, l'adversaire de nuit, est venu semer son ivraie. Et voilà, dans le champ désormais, il y a un mélange. Dans le champ d'origine, il y a un mélange. Un mélange de bon grain et d'ivraie. Il y a un mélange de bon grain et d'ivraie en chacun de nous. En chacun de nous. En tout être humain, il y a un mélange de bon grain et d'ivraie. Et puis dans les institutions, il y a un mélange de bon grain et d'ivraie. Et cela nous remue, cela nous a remué. Cette réalité dans laquelle nous sommes, cette réalité que Jésus, le Fils bien-aimé, est venu habiter pour s'affronter, pour traverser. Cette ivraie qui est là au milieu du bon grain, si diluée, si cachée, qu'on ne la distingue pas bien. Et les botanistes expliquent que de fait, l'ivraie et le bon grain, tant qu'ils sont petits, on ne sait pas qui est le bon grain et qui est l'ivraie. Et puis en grandissant, c'est en grandissant que les tiges laissent apparaître leur diversité. Mais ce n'est pas dès le début. En grandissant. Et dans le mélange, et tant que la fleur n'a pas grandi, on ne sait pas bien où est l'ivraie, où est le bon grain. Ce n'est qu'à mesure que ça croît, que ça grandit, qu'on distingue mieux l'ivraie et le bon grain. Le mélange est là, à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de chaque institution, à l'intérieur de nos communautés, de nos congrégations, de nos corps, le corps sacerdotal, n'en a pas été exempt de cette réalité. Et nous voyons Dieu, Dieu qui s'est fait homme et qui s'est affronté à cette réalité. Et il n'a plus, et plutôt il n'a pas pu, il a appelé à sa suite des hommes dans le cœur desquels le bon grain livré était mélangé. Il n'y en a pas d'autres. Il n'a plus appelé que de ceux-là. Mais avec ceux-là, il a indiqué un chemin, celui de l'espérance, celui de ne pas juger, mais de sauver. Celui de se donner et non pas de dominer. Il n'a pas, il n'a pas sauté Judas quand il a lavé les pieds. Il les a lavés à tous. Et il n'a pas dit à Pierre, je t'avais dit que tu serais le roc, mais quand je vois ce que tu as fait, je vais maintenant le confier à un autre, cette église. Non. Non. Il est venu réveiller le bon grain qu'il y avait en lui, en enfermant pas Pierre dans son livret. Pierre, m'aimes-tu? Voilà le bon grain. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors, t'aimes, sois le berger de mes brebis. Il a ramené Pierre au bon grain. une vraie qui avait dans le cœur de pierre, ne lui a pas fait oublier le bon grain qu'il avait dans le cœur de pierre. Et sa faute, son reniement, n'a pas à jamais fermé les yeux de Dieu sur le bon grain qu'il avait dans sa vie. Et la plupart des apôtres se sont tenus loin au moment de la mort. Et Paul lui-même a commencé par être un persécuteur avant d'être retourné par la grâce de Jésus, parce que Jésus lui a mis le doigt sur son ivraie. C'est moi que tu persécutes en persécutant tes frères. C'est moi que tu tues en tuant tes frères. Et les actes des apôtres nous montrent ce mélange. On vendait ses biens pour que tout le monde ait la même somme, mais on s'est vite mis à tricher. Et Ananias et Saphir, eh bien, ils n'ont pas donné toute la recette de la vente de leur champ. Ils en ont gardé un peu sous le coude pour eux. Et Simon le magicien s'est dit, il y a de bonnes affaires à faire. Si j'achetais le droit, si je pouvais acheter le droit de guérir, en imposant les mains. Alors il est allé négocier. Et il est ressorti mort. Et l'histoire de l'humanité nous montre ce mélange dans l'histoire du monde, dans chacune de nos vies, dans chaque être, en chacun de nous, pas que chez les autres. Et aujourd'hui, bien sûr, dans ces temps-là, ces années-là que j'évoquais, mais toujours, ce qui révolte et ce qui fait mal, c'est quand cet ivré vient frapper le respect des plus jeunes, le respect des enfants, le respect des jeunes, des mineurs, comme nous disons. Que ces comportements immoraux de personnes pourtant consacrées sont profondément et nous profondément choqués. Et les progrès des sciences psychologiques et psychiatriques nous ont même appris tous les dégâts que ça avait pu faire. Parce que souvent, parce que toujours, l'ivraie est inconsciente des dégâts qu'elle produit. Alors écoutons Jésus nous dire: le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé le bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie aussi apparut. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: le Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps qui est le nôtre? Ben dans ce temps qui est le nôtre, il vaut mieux s'employer à demeurer du bon grain qu'à vouloir arracher l'ivraie. Si tu veux arracher l'ivraie, tu outrepasses tes capacités, tu n'es pas capable de distinguer. Et en arrachant l'ivraie, tu pourrais arracher du bon grain. Non, occupe-toi d'être du bon grain. Regarde ton propre champ. Ne va pas t'occuper du champ du voisin. Alors, que faire? Eh bien, voilà, c'est le temps où coexistent le bon grain et l'ivraie. C'est le temps où on reste en éveil et le temps où on s'endort. Et quand on s'endort, on tombe à la merci de celui qui en profite, le démon, le malin. Ce temps de l'histoire est ce temps où rien n'est définitivement irrémédiable. Ni le bien n'est durable sans vigilance, ni le mal n'est définitif sans rémission, sans conversion possible, sans changement possible. C'est vraiment le temps de la vigilance. Soyons vigilants. L'ennemi est toujours à l'affût. Et si nous nous endormons, eh bien, il en profite. Il va pousser dans notre cœur, dans notre vie, dans nos relations, dans nos rapports, dans nos vies concrètes, l'ivraie. Soyons vigilants. Soyons vigilants, ne baissons pas la garde. N'arrêtons pas d'être fidèle, n'arrêtons pas d'être fidèle. Fidèle à ce que celui qui nous a choisis nous a montré comme le chemin de la vie. Fidèle. Fidèle à ces moyens qui nous sont donnés. La maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de nos regards, la maîtrise de notre langue. La maîtrise de ce qui enfante le livret. Et cultivons ce qui donne du bon grain, la patience, la confiance, l'espérance. Voilà qui nourrit, qui est l'engrais de notre bon grain. Ce qui fait pousser le bon grain, c'est la patience, l'espérance, la confiance. À l'image du maître de la moisson, qui n'a pas tout arraché, mais qui est venu montrer sa patience en son fils bien-aimé, la beauté de son regard, qui voit dans le cœur de chacun et dans chacune de nos vies de belles choses, qui voit dans le cœur de la Samaritaine la vie de la femme adultère, la vie de son disciple Pierre, qui voit que peut se réveiller le meilleur du meilleur. Pourvu que je me remette quotidiennement devant la question que Jésus lui a posée. M'aimes-tu, Pierre, m'aimes-tu? Pourvu que chaque jour, je me remette à l'écoute du Seigneur qui me demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et si j'arrive des Si j'arrête d'écouter le Seigneur qui me dit « M'aimes-tu ?» Je douterai que lui-même, je douterai de son amour. Je me mettrai à me replier sur moi et je ne rechercherai que ce qui vient que de moi. Et je me fragiliserai. Je ne tiens que dans une relation. L'homme est un être de relation. Quand il se replie sur lui et qu'il veut tout partir de lui, eh bien, il enfante de l'ivraie. Et le Fils bien-aimé s'en est remis au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il a ouvert le temps de la confiance. Le temps de la confiance. À l'image de la confiance du maître de la moisson. Non, 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 n'arrachez rien. Laissez pousser. Et dans un second temps, dans l'évangile de Matthieu, après avoir raconté la parabole de l'ivraie, il raconte la parabole de la graine de moutarde et le levain dans la pâte. Et puis il rentre à la maison, et à la maison, les disciples lui disent « Explique-nous cette parabole, bon grain est de livret. Alors il reprend. Il reprend quelques versets plus loin. Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Jésus leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute. Et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, celui qui a des oreilles qui entendent. Voilà l'explication que redonne Jésus à ses disciples avec cette opposition entre le travail du Fils de l'homme et celui du mauvais dans ce champ qu'est le monde. Fils du royaume, voilà le bon grain. Fils du mauvais, voilà l'ivraie. L'ennemi, c'est le diable. Le temps du tri n'appartient pas à ce moment-ci. Il aura lieu à la fin. À la fin. Et il ne sera pas confié à des humains. Il sera confié aux anges. Les humains peuvent toujours se tromper. Ou distinguer le bon grain et l'ivraie. Ou bien ils risquent de manquer de patience et de détruire immédiatement, d'arracher immédiatement. Alors que peut-être il y aura le temps de la conversion. Oui, il y aura un jugement, mais ça sera celui du maître de la moisson et non de ses ouvriers. Alors je note quelques points d'attention. Le premier, c'est que nous sommes ce champ que le Fils de l'homme ensemence de bon grain. Ce champ, c'est le monde, ce champ, c'est nous tous, ce champ, c'est chacun de nous, en chacun de nous. Le Fils de l'homme sème du bon grain. Il y a du bon grain dans le cœur de chaque être humain. Il y a du bon grain dans le cœur de chaque être humain. Mais deuxièmement, nous sommes le monde, nous sommes chacun de nous, moi-même, aussi le champ que le diable ensemence si je m'endors. Si nous nous endormons, si nous manquons de vigilance, l'ennemi sème son ivraie et il y a mille manières de s'endormir. Mille manières. On les appelle dans des mots que nous nous sommes donnés, ou ces vices de l'orgueil à la débauche. De la richesse abusive à l'écrasement des frères. De la langue qui peut dire le bien et de la langue mille manières de s'endormir, mille manières de s'endormir. Oh, c'est pas si grave que ça. Oui, mais ça commence comme ça. Ça commence toujours petit. L'ivraie commence toujours petit. Et le bon grain aussi commence petit. Et si tu n'es pas vigilant, eh bien, mille manières. Le troisième point, c'est il ne nous appartient pas de faire le tri. Ça appartiendra à Dieu. Donc nous, évidemment, que dans l'histoire des hommes, nous sommes bien obligés de faire, de bâtir la justice des hommes. Et il faut la bâtir, la justice des hommes. Dieu a donné aux hommes, dans le bon grain, il y a le jugement. Dans le bon grain, il y a l'intelligence. Et dans le bon grain, on regarde ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Donc il faut bien prendre. Par rapport aux actes posés, on ne va pas dire que tout est bon de manière que ça peut changer. Et non, ce qui a été mauvais a été mauvais. Et il faut bien condamner ce qui est condamnable. Mais pas la personne. Pas la personne. Ses actes, oui. Mais pas la personne. Oui, cette personne, elle a enfanté de livrer. Il n'y a pas de doute. Et pour que la vie soit possible entre nous, il faut bien condamner. Il faut bien dire que ces actes-là étaient mauvais. Mais la personne, elle peut reproduire du bon grain. Il n'y a pas que de livrer, vous savez. Il y a aussi du bon grain. Et si je regarde les victimes, eh bien je ne peux pas dire à la victime, eh bien tu n'as qu'à tourner la page, c'est pas si grave que ça. Et non, je suis dans l'illusion, je ne sais pas le mal que ça a produit dans l'autre. L'autre seul peut me dire la profondeur du mal que je lui ai fait. J'ai laissé échapper une parole qui ne me paraissait pas grave, mais elle a peut-être fait très mal. À mon frère, à ma sœur. Tant que je n'accepte pas qu'elle me dise ou qu'il me dise, tu m'as fait mal l'autre jour. On appelle ça la correction fraternelle. Le quatrième point, c'est que nous vivons dans un temps où les choses ne sont pas définitives. Peuvent bouger sans arrêt. Celui qui est bon grain peut tomber. Et celui qui est ivré peut se convertir. C'est le temps de la patience du Maître. Parce qu'il sait qu'en chacun de nous, la grâce de l'Esprit continue le combat, mène toujours le combat contre l'œuvre du démon, l'œuvre du mal. Nous ne comprenons pas comment est possible un tel mélange du bien et du bon, et du mal, du bon grain et de l'ivraie. Et voilà, c'est la réalité. La réalité nous montre des retours étonnants. Personnes qui ont commis des actes déplorables sont capables de retourner, de retournements qui peuvent nous étonner. Et ceux qui ont travaillé dans les aumôneries de prison pourraient nous dire tel ou tel retournement qu'un détenu a accompli durant sa détention. Puis celui qui est bon grain, il peut tomber. Le maître du domaine, il est patient. Il est plein d'attention, il est plein d'espérance. Il condamne les actes, mais il ne condamne pas les personnes. Et dans l'histoire de l'Église, on a été rapidement affronté à toutes ces questions. Dès les actes des apôtres, je l'évoquais tout à l'heure. Et puis il y a eu ces plus grands moments quand les persécutions sont arrivées, dans le deuxième, troisième siècle, il y a ce qu'on appelait les lapsis. Les lapsis, c'est ceux qui acceptaient de sacrifier à l'empereur, aux exigences de l'empereur, en faisant des gestes que l'ennemi demandait, et en cachant du coup leur foi au Christ, en reniant le Christ, et reniant les liens de la communauté. Et puis la persécution s'est arrêtée, a été finie dans l'histoire. Et on s'est demandé, ils voulaient revenir dans la communauté chrétienne, mais qu'est-ce qu'il nous faut faire avec ces lapsis? Évidemment, il y a eu la division dans la communauté chrétienne. Les uns disaient, ah ben, il ne faut pas les accepter, sinon alors, où va-t-on? Et les autres disaient, comment si on ne les accepte pas? On n'est pas fidèle à notre Christ. Alors on a inventé ces chemins de conversion, ces chemins de pénitence. Et le pèlerinage en Terre Sainte en a été un. Et puis le jeûne, et puis tous les sacrifices qu'on a mis en place, qu'on a légiféré. On a mis des lois. On a mis des lois. Il te faudra, pour retrouver ta place totale, faire ceci, faire cela. Et dans ces règles-là, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais. Comme toujours, il y a eu du bon grain et il y a eu de l'ivraie. Et je me suis dit, tu vas regarder si les pères de l'Église ont commenté cette parabole. J'ai été voir, j'ai trouvé Saint Jean Chrysostome à l'époque du Concile de Nicée, qu'on a fêté l'année dernière. C'est 1500 ans. C'était le moment justement des hérésies où on discutait pour savoir si Jésus était vraiment homme et si Jésus était vraiment Dieu. Et ça se disputait entre eux, etc. Et Chrysostome montre comment l'ivraie se mène au bon grain. Et que derrière chaque erreur, chaque hérésie, il y a un mélange de vérité et de mensonge. Voilà. La manière dont le malin travaille, c'est qu'il mélange. Il mélange. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il mélange, lui. Il mélange. Il met un ensemble de regards dans nos cœurs qui fait que c'est mélangé. Et que par un certain côté, et puis à ce côté, et puis à ce côté, et puis à ce côté. Le mélange. Le mélange. Et nous avons l'art du mélange. Il nous a appris l'art du mélange. Nous savons présenter notre point de vue comme étant à peu près le seul qui soit bon. Et celui de l'autre qui ne pense pas comme moi, je sais le présenter comme en étant comme mauvais. Et ainsi vont nos disputes. Elles commencent petites, à notre niveau interpersonnel, puis elles deviennent grandes. Et c'est quand on le regarde devant les grands mouvements de l'histoire humaine, on voit bien que chaque tribu a voulu manger la tribu d'à côté et agrandir son territoire. Et quand en mangeant dans la salle à manger, là-haut, où il y a la map monde, j'étais plusieurs repas pouvant bien la regarder, mais je me disais, mais c'est fou. Quand tu vois notre Europe qui est faite de tout petits pays, et que tu vois les grands espaces du monde que nous avons envahis à des moments divers en n'apportant pas que du mauvais, en n'apportant pas que du bon. Et puis quand je vois la grande Russie, qui n'en a pas encore assez, qui veut prendre un bout de l'Ukraine, que je vois la Chine, que je me dis, ils ont mangé un petit bout, parce qu'ils n'en ont pas assez. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Et ainsi va le monde. Et ainsi allons-nous. Et ça nous invite vraiment à la vigilance. À la vigilance. Mélanger le mensonge à la vérité. Et c'est tout notre travail, toute notre capacité de dialogue finalement, toute notre capacité de dialogue entre nous, pour que nous acceptions, dans la diversité des approches, d'avancer ensemble vers la recherche du bien, du bon, du fidèle. Et j'imagine que dans la vie de votre congrégation, bien, c'est bien ce que vous essayez de pratiquer dans vos structures diverses. Mais l'important, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter chacun, chacune, et puis votre fondateur, et puis ce chemin sur lequel on est parti. On peut tellement vite s'endormir. Et puis, nous, les octogénaires, les nonagénaires, nous n'avons pas l'énergie des quadras ou des quinquas que nous fûmes. Et alors, tout ça doit se mélanger pourtant. C'est pas évident de mélanger des quadras et des nonas. C'est pas évident. Et c'est pourtant votre vie. Et c'est pourtant notre vie. Il n'y a pas qu'une solution qui est toute vraie et l'autre qui est toute fausse. Et on cherche. Et on cherche. Et puis il y a surtout l'attention aux personnes. Ma part dans cette épreuve, ce moment, et l'écoute des victimes, et l'écoute de mes confrères qui m'ont chuté, m'a fait balancer d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Et moi-même, dedans de moi-même, je vois bien qu'il y a du bon grain et de l'ivraie. Et que déjà écouter l'autre est un combat pour l'écouter, l'entendre dans ses joies et dans ses blessures. Et j'ai souvent entendu presque les mêmes formules. La double peine. La double peine. L'expression la double peine. Quand les victimes voient qu'on prend soin du coupable. Et quand les coupables qu'on voit pensent qu'on en fait trop pour les victimes. Oh, il y en a assez de parler de ça. Maintenant, tournons la page. Il n'y a pas que ça. Et les coupables disent, quand même, ma vie ne se réduit pas à cette matinée, à cette nuit où j'ai fait l'idiot. C'est la double peine. Et tel coupable qui dit, moi j'ai fait la prison, maintenant que je suis sorti de prison, je n'ai plus droit à rien. Pourtant j'ai payé. Et si on lui dit, oui tu as payé, mais la victime, elle ne le voit pas encore tout à fait comme ça. Et puis tes mains qui disaient le corps du Christ. On ne peut pas juger, on n'est pas capable de juger, ça nous dépasse. Mais gardons les attitudes de fond, l'écoute, la bienveillance, et puis le changement possible dans le cœur de chacun. Le bon grain peut reprendre, le bon grain peut reprendre. Et alors j'ai pris Augustin, et c'est avec Augustin que je vous donnerai sa parabole du bon grain et de l'ivraie. Il la commente lentement. Si vous voulez avoir tout, il vous faudra passer par Monsieur Google. Et il vous donnera le sermon 73. Vous savez, c'est l'Afrique, hein, c'est l'Afrique du Nord, Augustin. Et en Afrique, il n'y a pas une homélie qui dure au moins de trois quarts d'heure. Mais nous, 7 minutes, 8, sinon c'est long. Sinon c'est long. Alors lui, il les faisait plutôt de 1 heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc je ne vous ai mis que des extraits qu'on va lire ensemble, vous allez voir. Ça va nous permettre de voir cette étude d'Augustin. Lui, c'est pas face aux hérésies, au Chrysostome, c'est par rapport aux hérésies, aux grandes discussions qu'il y avait, divisions qui ont créé les divisions après sur le Christ, sur ce Dieu qui est venu. S'est-il fait vrai Dieu? Est-il allé jusqu'à être un vrai homme? Ou a-t-il fait semblant d'être homme? Et est-ce bien le vrai Dieu qui est venu? Toutes ces questions théologiques. Et Augustin, lui, c'est sur sa communauté. Dans sa communauté, eh bien, on se disputait. Ah! C'est pas nouveau, hein. On se disputait, on se divisait, on se mordait. Et alors, vous allez voir, il parle d'abord au bon grain, puis il parle à l'ivraie. Et là, sur la feuille, on va pouvoir regarder le passage sur l'ivraie. Mais vous comprenez bien que ça, c'est pour nous interroger sur chacun de nous et pas sur les temps anciens. Comment aujourd'hui nous savons reconnaître qu'en nous, il y a de l'ivraie et du bon grain, que dans la voisine, il y a de l'ivraie et du bon grain, et que nous ne pouvons pas avancer si nous ne voyons que l'ivraie chez les autres et que le bon gagne chez soi. Voilà. Et ça, c'est fondamental pour nous. C'est fondamental. Alors, s'il s'agresse, c'est encore aujourd'hui une parabole de semeur. Le Seigneur nous y montre un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que l'on dormait, ça c'est important, ça veut dire on s'endort, on est vite endormi, hein. On a plein de somnifères. C'est nos manies, nos petites habitudes, des somnifères. Or, pendant que l'on dormait, l'ennemi vint et sema de l'ivraie par-dessus. On ne s'en aperçut point quand tout était en herbe. Mais sitôt qu'on put distinguer les bons épis, on reconnut aussi l'ivraie. À la vue de cette ivraie mêlée en grand nombre bons grains, les serviteurs du père de famille se fâchèrent et voulurent l'arracher. On ne le permit pas, mais on leur dit « Laissez croître à l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Cette nouvelle parabole a été également expliquée par notre Seigneur Jésus-Christ. Le semeur de bon grain, c'est lui-même, etc. Aujourd'hui, le paragraphe suivant, je m'adresse aujourd'hui à l'ivraie. Le début de l'homélie, il s'est adressé au bon grain. Vous le trouverez. Cette ivraie désigne les brebis du troupeau. Ô mauvais chrétien, ô vous qui fatiguez par votre mauvaise conduite l'église que vous remplissez, corrigez-vous avant l'époque de la moisson. Ne dites pas « j'ai péché, mais que m'est-il advenu de fâcheux ?» Dieu n'a rien perdu de sa puissance, mais il exige que tu fasses pénitence. C'est ce que je dis aux pécheurs, qui pourtant sont chrétiens. C'est ce que je dis à l'ivraie. Car ils sont dans le champ du père de famille, il peut se faire t'ivrer aujourd'hui, demain il soit bon grain. Alors maintenant, pour ce même motif, je m'adresse aussi aux froments. Ô chrétiens qui vivez saintement, vous êtes en petit nombre et vous soupirez, vous gémissez au sein de la multitude, l'hiver passera, viendra l'été, et voici bientôt la moisson, les anges viendront avec le pouvoir de faire la séparation et dans l'impuissance de se tromper. Pour nous, nous ressemblons aujourd'hui à ces serviteurs qui disaient « Voulez-vous que nous allions l'arracher ?» Nous voudrions en effet, s'il était possible, qu'il ne restât aucun méchant parmi les bons. Mais il nous l'a dit « Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Pourquoi? Parce que vous pourriez vous tromper. Aussi écoutez, dans la crainte qu'en voulant l'arracher livré, vous n'arrachiez aussi le froment. Que faites-vous avec cette noble ardeur? N'allez-vous point ravager vos moissons? Les moissonneurs viendront, c'est-à-dire les anges, comme l'a expliqué le Sauveur. Nous sommes des hommes, les anges sont les moissonneurs. Il est vrai, si nous achevons notre course, nous serons égaux aux anges de Dieu. Mais aujourd'hui, que nous nous fâchons contre les méchants, nous sommes encore des hommes, et nous devons prêter l'oreille à ces mots, que celui donc qui se croit debout garde, prenne garde de tomber. Croyez-vous, mes frères, alors attention, là, pour le coup, c'est pas mal la suite. Croyez-vous, mes frères, que l'ivraie ne se lève pas jusqu'à l'abside? Croyez-vous qu'il n'y en ait qu'en bas et point en haut? Plaise à Dieu que nous n'en soyons pas nous-mêmes, mais peu m'importe d'être jugé par vous. Oui, je le déclare à votre charité. Il y a dans les absides, c'est-à-dire parmi le peuple, il y a du froment et de l'ivraie, du froment aussi et de l'ivraie parmi le peuple. Voilà, il y en a parmi les ordonnés et parmi les non-ordonnés. Il y a la grande séparation, elle y est toujours. Et il n'y en a pas que dans la nef, il y en a aussi dans le cœur de l'ivraie. Que les bons supportent donc les méchants, mais que les méchants se convertissent et imitent les bons. Devenons tous, s'il est possible, les serviteurs de Dieu, et tous, par sa miséricorde, échappons à la malice de ce siècle. Cherchons les jours heureux, puisque nous sommes dans les jours malheureux, mais pour arriver à ces heureux jours, ne blasphémons point en transformant les jours malheureux. Voilà, ça nous met devant notre responsabilité, notre conversion, notre vigilance. Excusez-moi pour ma passion parfois, mais voilà, je crois qu'il y a de la vérité dans cette parabole et vous saurez trouver ce que le Seigneur veut vous dire. Et dans mes propos, vous en laverez livré si vous pouvez, si vous savez la distinguer du bon grain, vous faites-le. Gardez en tout cas ce qu'il peut y avoir de bon dans cette parabole pour nous aider au jour le jour, au niveau personnel, au niveau des communautés, au niveau de la congrégation, au niveau pour ceux qui sont mariés, au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, etc., etc. Il y a toujours partout, il y a le bon grain, il y a livré, il y a le bon grain, il y a livré. Et en chacun de nous, il y a le bon grain, il y a livré. Ne nous endormons pas, et n'arrachons pas, ne coupons pas les ponts, ne coupons pas les ponts, ne déclarons pas que quelqu'un, la relation avec quelqu'un est finie, jamais, 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 jamais je ne pardonnerai. Et si, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Il n'y a pas la vie autrement. Pardon. Et bonne continuation.